Il est 7h.
Il n'y aura pas de formation de fruits et pas de développement de fruits. 200 ou 300 000 euros de perte de chiffre d'affaires pour notre entreprise, quoi.
L'heure des comptes pour les agriculteurs dans les vergers, dans les vignes. Ils ont vu leur culture gelée ces dernières nuits et les dégâts considérables concernent toute la France. Elle voulait attaquer une église près de chez elle, à Béziers. On en sait plus ce matin sur le projet d'attentat de la jeune femme de 18 ans arrêtée le week-end dernier. Elle avait tout consigné dans un cahier. Dans ce journal aussi, des cultures d'un nouveau genre qui prennent racine en France dans des hangars sans fenêtres. Le dossier de la rédaction ce matin sur ces fermes high-tech où les plantes poussent grâce à des lampes et des nutriments. Et puis c'est une conséquence du confinement, les installations de piscines en forte hausse l'an dernier, plus 30%. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré, suivi du regard international, Vincent Hervouette.
Les Allemands négocient l'achat du vaccin russe, Angela Merkel fait cavalier seul, indifférente à ce que fait l'Europe et à ce que dit la France.
L'édito sport de Virginie Fulpin.
Genoux à terre des athlètes, menace de boycott de certains pays, les Jeux Olympiques peuvent-ils encore afficher une neutralité politique?
Et puis nous serons avec Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une semaine noire pour les arboriculteurs et les viticulteurs. Noirs comme les bourgeons et les plantes après le gel. Les températures négatives des dernières nuits ont ravagé les cultures et ce dans toute la France. De nombreuses récoltes sont compromises. Pour Europe 1, Caroline Baudry.
Des bouteilles de vin étiquetées 2021, Guilhem n'en remplira que très peu cette année. Après deux nuits de gel, ce viticulteur dans l'Hérault a perdu 95% de sa future récolte.
Alors quand vous vous réveillez, vous apercevez pas de grand chose puisque les vignes sont vertes, mais parce qu'elles sont vertes, parce qu'elles sont congelées, tout simplement. Et puis au premier rayon de soleil, quand la glace se fond, vous avez votre végétal qui devient tout marron, qui sèche tout simplement, les cellules sont mortes, les cellules ont éclaté, elles se vident de leur eau.
Dans le Bordelais, 30 à 40% des vignes ont été frappées par le gel, même constat pour les arbres fruitiers, beaucoup sont décimés, comme la moitié des pommiers et poiriers de Michel, agriculteur en Seine-et-Marne.
Il n'y aura pas de formation de fruits et pas de développement de fruits. 200 ou 300 000 euros de perte de chiffre d'affaires pour notre entreprise, quoi.
Certains craignaient de revivre le terrible gel de 2017. En fait, l'épisode de ces derniers jours a été plus intense et plus étendu, explique Jérôme Despé, secrétaire général de la FNSEA, premier syndicat agricole français.
Excepté la Corse, quand j'ai fait le tour de France, j'ai pas une région qui n'est pas concernée par cet épisode donc de gel. Il y a plusieurs milliers d'hectares qui sont touchés avec des pertes à 100%.
La FNSEA qui est encore en train de recenser les dégâts alors qu'un autre épisode de gel est redouté en début de semaine prochaine.
Et dès hier soir, le ministre de l'Agriculture a annoncé l'activation du régime de calamité agricole promettant des aides pour les agriculteurs.
Le gouvernement qui s'inquiète de la saturation des hôpitaux. La situation est grave, a dit hier le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.
Plus de 30 000 malades du Covid toujours hospitalisés, dont un peu plus de 5 700 en réanimation. Et si les transferts de patients se sont avérés difficiles ces dernières semaines à cause de l'état des malades ou de l'opposition des familles, ce sont désormais des transferts de soignants qui s'organisent entre établissements.
Illustration avec vous, Stéphane Place à Hendaye, au Pays Basque, où l'hôpital est lié à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Là-bas, des infirmières et des aides-soignants se sont portés volontaires pour prêter main forte à leurs homologues parisiens.
Oui, dans une dizaine de jours, Julie et Henriette, aides-soignantes ici à l'hôpital Marin d'Hendaye, partiront à leur tour prêter main forte à leurs collègues des hôpitaux de la région parisienne.
Hôpital Antoine Béclair à Clamart. Normalement, il y a une formation de 3 jours en immersion directement là-bas. Parce que la réa, bon, c'est un service particulier.
Je suis originaire du 95, ça me paraissait logique d'aller donner un coup de main. C'est être solidaire.
10 infirmiers, 10 aides-soignants déjà sur place ou se préparant à prendre le relais, tous volontaires pour ces missions de 15 jours. Le docteur Brigitte Soudry est la directrice médicale de crise de l'hôpital Marin d'Hendaye.
3 infirmiers égale 1 lit de réa de plus. Donc là, 20 personnes de plus, c'est X lits qui peuvent fonctionner. En plus, les personnes qui sont parties, elles vont travailler en 12 heures. Une implication majeure.
Des renforts possibles grâce aux efforts aussi de réorganisation de l'hôpital basque que dirige Delphine Barre.
Ça ne suffit pas non plus de pouvoir revenir sur des jours de repos ou des heures supplémentaires. C'est aussi des déprogrammations malheureusement, mais qui sont bien sûr beaucoup moins importantes que dans d'autres secteurs, notamment de chirurgie. L'équipe médicale de l'établissement qui fait l'effort également de solidarité, puisque nous avons fermé un secteur de 10 lits pour permettre de récupérer du personnel et de le redispatcher sur des absences inhérentes au renfort parisien.
Un engagement, une solidarité se traduisant ici par un nombre plus important de volontaires que de missions de renfort prévues pour l'instant.
Stéphane Place à Hendaye pour Europe 1, des volontaires dont certains ont même décidé de rester une semaine de plus en renfort en Ile-de-France. À 4 jours de la mise en vente des autotests en pharmacie, la mise en garde de l'Académie de médecine sur les tests nasopharyngés nasopharyngée. Un prélèvement trop timide pourrait exposer à un faux négatif. Un prélèvement trop profond peut s'avérer dangereux. L'Académie préconise de réserver la réalisation des tests aux professionnels de santé formés.
Une école en trois lettres. L'ISP remplace donc l'ENA. Europe 1 vous le révélait hier matin. L'École nationale d'administration est supprimée au profit d'un futur institut du service public.
Louis Dragnel, comment fonctionnera ce nouvel institut en termes de recrutement ou de formation ?
Eh bien, première nouveauté, cette école qui restera à Strasbourg aura pour vocation de diversifier son recrutement avec des étudiants au profil sociologique plus varié et davantage issus du monde universitaire. Pour ce qui est de la formation, l'Institut du service public disposera d'un tronc commun pour les élèves des 13 écoles de la haute fonction publique, comme l'École nationale de la magistrature ou l'École des commissaires de police. Le contenu du tronc commun n'est pas encore très précis, mais on sait qu'il portera sur des problématiques actuelles, valeurs républicaines, laïcité, inégalité, discours scientifique. Autre nouveauté, la formation continue destinée aux hauts fonctionnaires en poste, avec notamment la création d'une école de guerre de la haute fonction publique, inspirée des armées pour sélectionner les hauts potentiels. Enfin, l'enseignement des matières fondamentales perdurera, et si le classement de sortie est maintenu, les meilleurs élèves ne pourront plus choisir une affectation dans les grands corps de l'État, mais dans des missions opérationnelles et de terrain, comme c'est déjà le cas pour le corps préfectoral. Les élèves du futur ISP rejoindront ensuite un corps unique des administrateurs de l'État, puis seront affectés à des postes en fonction des besoins du pays.
Friture sur la ligne entre Paris et Alger, la visite de Jean Castex prévue dimanche en Algérie, reportée officiellement pour cause sanitaire. En réalité, les autorités algériennes n'auraient pas apprécié le format réduit de la délégation française avec 4 ministres. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 8h.
7h07 sur Europe 1. C'est bien un projet d'attentat qui a été déjoué le week-end dernier à Béziers. La principale suspecte, âgée de 18 ans, a été mise en examen et écrouée hier soir.
Et Guillaume Bier, on en sait plus désormais sur son profil et ses intentions.
Oui, c'est dans un cahier à spirale que le projet terroriste de cette jeune femme était consigné. Sur plusieurs pages, des notes manuscrites évoquant l'État islamique, des projets d'action violente et le schéma d'une église située près de chez elle, sans doute là qu'elle envisageait de passer à l'acte. Dans son cahier encore, une recette de fabrication d'explosifs et chez elle, tous les ingrédients pour faire du TATP, cet explosif artisanal déjà utilisé dans plusieurs attentats. Radicalisation solitaire pour cette jeune femme qui n'allait plus en cours depuis 2 ans, jamais été condamnée, jamais attiré l'attention des services de renseignement français, malgré la propagande djihadiste retrouvée dans son téléphone. En revanche, de l'autre côté de la Méditerranée, cette jeune radicalisée est apparue dans les radars des renseignements marocains. Ce sont eux qui annoncent avoir détecté le projet d'attaque imminent et qui auraient prévenu leurs homologues français jeudi dernier, 48 heures avant les interpellations à Béziers.
Guillaume Bier, un butin estimé à 100 000 euros, braquage hier soir au sein du palace parisien le Georges V près des Champs-Élysées. Armé d'un pistolet, un homme a fait main basse sur des bijoux présentés dans le hall de l'hôtel. Un complice l'attendait à l'extérieur. Le duo a pris la fuite sans faire de blessés.
C'est notre ambition tous les matins, notre promesse même, vous raconter ce monde qui change. Nouvelle illustration ce vendredi avec ce qui sera peut-être l'agriculture du futur. Bonjour Virginie Salmen.
Bonjour.
C'est une alternative qui est en train de se développer, les fermes verticales. Une jeune entreprise qui s'appelle Jungle vient de lever 42 millions d'euros pour bâtir 3 usines. Vous avez bien entendu, on parle d'usine. Oui, d'usine à plantes. Virginie Salmen, vous avez pu visiter la première d'entre elles. C'est près de Château-Thierry dans l'Aisne. Mmh. À quoi ça ressemble ?
Alors, cette ferme verticale, c'est un hangar industriel truffé de tuyaux et de lampes. Il faut s'habiller comme pour entrer dans un bloc opératoire. Alors, combinaison blanche intégrale, sur chaussures, charlotte sur la tête, pour ne pas contaminer les jeunes plants. À l'intérieur, aucune fenêtre, mais des plantes sur 10 mètres de hauteur.
Vous avez des herbes aromatiques, du basilic vert, de la coriandre, de la ciboulette, du persil plat, mais également des variétés un peu plus sophistiquées, du basilic citron, du basilic thaï.
Il y a aussi des salades, des épinards, du cresson et de nouvelles espèces sont testées en permanence. La croissance de ces plantes est ultra calibrée, des lampes à LED reproduisent la luminosité du soleil du matin, du midi, du soir, il y a aussi la nuit. La température est contrôlée, 18 degrés la nuit, 22 le jour, c'est l'été toute l'année. Les plantes ne sont pas dans la terre mais dans un bain d'eau et de nutriments ajustés à leurs besoins pour une croissance optimale de 20 à 30 jours selon les variétés. Le cofondateur de Jungle, Gilles Dreyfus.
On a une précision absolue sur le poids, le calibrage, la concentration des feuilles, le goût, l'odeur, la couleur et la charge nutritive et vitamineuse. Comme on optimise l'ensemble des paramètres de culture, on a des cycles de culture qui sont plus courts que dans la nature. Ce qui veut dire qu'on multiplie les cycles. Et donc, il y a une notion de rentabilité et d'économie qui est très importante. Et comme on est en environnement contrôlé, on n'a pas besoin de se protéger contre des attaques de pucerons, de bêtes ou d'insectes. Et donc, on a absolument 0,0% recours aux pesticides, herbicides, fongicides.
C'est donc moins de produits que dans le bio, hein, qui a le droit d'utiliser quelques pesticides, souvent d'origine naturelle. Cette méthode de culture donne 10 à 30 fois plus de rendement que sous serre ou en pleine terre. 50 000 plantes ont déjà été produites par Jungle et l'objectif, c'est de passer à 10 millions.
Et ce bruit qu'on entend, Virginie, c'est quoi?
Alors c'est ça, le prix de la salade, Marion
Gallet. Ça pourrait, j'ai demandé, c'est l'extracteur d'air qui est renouvelé en permanence.
Ça fait un peu Star Trek.
C'est assez étonnant, ouais, c'est assez déroutant. Virginie, basilic, persil, salade, c'est ce dont vous nous avez parlé. Mmh. C'est bien, mais on n'aurait pas des gens avec ça.
Alors, les fermes verticales, effectivement, n'ont pas l'ambition de devenir l'alpha et l'oméga de l'agriculture, mais une alternative sérieuse. De nouvelles espèces sont testées en permanence, des framboises, des myrtilles. Le tout, c'est de réussir à rester compétitif. Donc, il faut que la taille de la plante permette d'être cultivée en étagère, mais d'autres choses sont possibles, effectivement.
Et ces plantes, vous les avez goûtées, c'est bon?
Alors, c'est très bon. Des plantes avec effectivement beaucoup de goût, par exemple le basilic est très très bon.
C'est l'été toute l'année, vous avez dit.
Voilà, donc c'est vraiment très calibré. Et ce qui est bluffant, c'est que toutes les plantes que j'ai vues sont parfaites. Il n'y a pas de feuilles jaunes ou rabougries.
Au risque de jouer un peu les rabat-joie ce matin, c'est quoi le bilan environnemental de ces usines à plantes?
Alors, dans la balance, il y a un rendement bien plus élevé qui est intéressant. Le bilan de l'eau est bon puisque l'entreprise fait 100% de récupération d'eau de pluie. Les dirigeants de Jungle reconnaissent qu'il faut encore optimiser la consommation d'électricité. Et puis pour le transport, leur point fort, c'est qu'ils livrent en circuit court. Les magasins sont à moins de 100 km du lieu de production.
Et la France est la seule à se lancer dans ce domaine ou il y a d'autres acteurs en Europe?
Alors non, justement, les fermes verticales de cette ampleur sont déjà au Danemark, au Royaume-Uni, en Allemagne. Jungle, c'est la plus grosse entreprise du genre ici en France, avec une ferme dans l'Est, bientôt une dans l'Ouest, et la plus grande qui sera dans le Sud de la France.
Voilà, peut-être donc des grands hangars à culture à l'extérieur de nos villes. Merci Virginie Salmen.
Cette tendance-là est directement liée au confinement, au besoin d'améliorer son cocon, où l'on a passé beaucoup de temps ces derniers mois, il faut bien le reconnaître. Jamais les Français n'avaient autant fait installer de piscine.
Oui, l'an dernier, les carnets de commandes des professionnels ont explosé, Emmanuel Dutheil.
C'est simple, hein. On n'a jamais installé autant de piscines en France qu'en 2020. Imaginez, il y a près de 30% de piscines en plus. Le marché se porte bien depuis des années, mais les confinements ont accéléré les demandes. Jean-Louis Desjoyeaux, le patron de Desjoyeaux, le leader du secteur, le dit, c'est hallucinant.
La pandémie a dit on ne peut pas partir à l'étranger, on ne savait pas où on pourrait aller en France. Donc eh bien, les gens se sont recentrés sur leur résidence principale ou résidence secondaire pour ceux qui pouvaient bouger. Ça nous a permis de finir avec une belle croissance.
Alors, ces piscines sont plus petites qu'avant, les terrains étant eux-mêmes plus petits. Plus petites, mais toujours plus équipées, selon Joëlle Pulinx-Chalet, la directrice générale de la Fédération des professionnels de la piscine.
Nous faisons aujourd'hui des piscines beaucoup plus confortables, faciles à entretenir, la plupart du temps qui sont chauffées par une pompe à chaleur et beaucoup plus agréables à l'utilisation parce que finalement, la première raison d'acheter une piscine familiale, c'est le bonheur en famille.
Budget moyen, 24 000 euros. C'est au nord de la France que la progression de piscine est la plus importante. Et tous les professionnels le disent, cette année s'annonce également exceptionnelle.
Emmanuel Dutheil,
j'ai envie de creuser, ouais. je me reconnais dans ce que dit Emmanuel. Tiens, on a... Puis la moitié nord, il faut dire que la moitié sud, ils étaient déjà équipés, pour beaucoup. Merci Marion Calais, c'était le journal de 7h sur Europe 1. Il est 7h14.